Bienvenue, je m'excuse, je ne suis pas souvent avec vous, malheureusement, avec l'agenda que vous savez, mais je suis toutes les discussions que vous avez et les échanges avec Florence avant qu'elle nous rencontre. Donc, je vais essayer de venir régulièrement vous voir en fonction de l'agenda, mais voilà, on est là pour répondre à vos questions, pour vos préoccupations. J'ai pensé que comme il y a eu la visite du Conseil de sécurité, et puis avec ce qui se passe un peu dans le pays, que ce soit sur le processus électoral, que ce soit sur l'Ebola, sur la situation sécuritaire, je pensais que c'était important qu'on se rencontre. Je vais juste donner quelques éléments. Je pense que, en ce qui concerne d'abord la visite du Conseil, comme vous le savez, le Conseil de sécurité s'est rendu en RDC. Il est resté juste à Kinshasa parce qu'il avait un agenda super chargé et donc il ne pouvait consacrer que 2 jours. Et on a eu pratiquement 3 jours parce qu'ils sont arrivés le 5 et ils sont partis le 7. Donc ce qui est, je pense, le plus important, c'est qu'ils ont pu rencontrer tout le monde. Ça a été pour eux très positif. Ils ont rencontré les autorités, ils ont rencontré la majorité, l'opposition, la société civile, les femmes. Je pense qu'ils ont eu aussi une petite entrevue avec vous. Malheureusement, leur agenda ne le permettrait pas. Ils ont rencontré le président de la République. Ils ont eu un échange très fructueux avec tout le monde et ils sont rentrés satisfaits de la visite. Je pense que pour eux, ça a été une opportunité de rencontrer tous les acteurs. C'était aussi pour nous la mission importante d'échanger avec ceux qui décident de notre mandat et ceux qui décident de ce que nous faisons. Donc, c'était une opportunité pour eux aussi de voir ce que nous faisons, quels sont les défis auxquels nous sommes confrontés et comment on peut améliorer notre travail. Je pense que dans ce cadre, bien évidemment, il y a tout ce que moi, je peux faire et je continue à le faire. J'ai un mandat de bons offices et je pense que les bons offices, c'est de ramener ceux qui détiennent une parcelle de décision dans le cadre de ce processus, et je parle particulièrement des élections. C'est d'essayer de ramener les parties prenantes à un minimum de consensus, à un rapprochement entre les points de vue pour arriver à s'entendre et à essayer de réduire les divergences parce que ce n'est dans l'intérêt de personne que ces élections ne se passent pas bien. De toutes les façons, je pense que le Conseil de sécurité a constaté et l'engagement des parties prenantes. Il a entendu ce qui s'est passé, les progrès, qu'est-ce qu'il reste à faire, les divergences. Ça a été vraiment une opportunité pour chacun de mettre sur la table ses préoccupations, mais aussi ce qu'ils sont en train de faire. Et je crois que ça a été important. Il y avait bien évidemment les divergences entre sur les 2 questions que vous tous vous connaissez, la machine à voter et le fichier électoral, mais aussi sur l'ouverture de l'espace politique et les mesures de décrispation. Donc toutes ces questions ont été abordées et j'espère que nous aurons l'opportunité d'avancer sur ce qui reste à faire. Le deuxième point que je voulais aborder avec vous, c'est la situation à Beni. Comme vous le savez, d'abord, c'est une situation qui devient de plus en plus difficile pour l'ensemble de la population. Vous avez l'insécurité, vous avez des groupes armés qui opèrent, l'ADF, mais aussi des groupes congolais. Il y a la situation de l'Ebola. Et bien évidemment, situation difficile, plus les divergences qui peuvent être créées par un contexte politique chargé à cause des élections, tout ça fait que la situation est préoccupante. J'aimerais saisir cette opportunité, d'abord de manifester, de exprimer ma solidarité avec la population, avec les victimes, avec les personnes qui ont subi l'Ebola, avec toutes les victimes de cette situation difficile. Et j'espère que nous allons arriver à contenir, comme on l'a fait à Mbandaka, cette situation de l'Ebola. Je pense que c'est quelque chose qui rajoute au stress et aux difficultés des populations de Beni. Et j'espère que nous pourrons ensemble arriver à ce que ces souffrances cessent. Les populations de la RDC ont le droit de vivre comme toutes les populations du monde, dans la paix, dans la sérénité, dans la stabilité, se tourner vers la construction de leurs institutions, de leur pays, de leur futur, le futur de leurs enfants. Vous savez, une crise comme ça, elle déstabilise tout et elle fait perdre des années quand on concentre tous les efforts sur quelque chose qui n'était pas prévu et qui va absorber l'énergie, l'argent, les moyens, la concentration, même les opérations militaires, vous ne pouvez pas les mener parce que vous avez l'Ebola. Et parfois, les gens ne comprennent pas. Le sang est un vecteur de transmission du virus. Et donc, c'est quelque chose qu'il faut aussi comprendre. Donc, toutes ces situations, j'espère, et j'ai senti déjà la dernière fois sans l'Ebola, combien les gens de Beni, avec des années d'instabilité, sont mal dans leur peau. Donc, je vais d'ailleurs me rendre pour essayer de leur apporter et le soutien et voir qu'est-ce qu'on peut faire de mieux. Je crois que je n'ai pas besoin de vous dire tout ce qu'on est en train de faire. Je voudrais souligner que nous n'avons pas un centime dans notre budget qui est destiné à l'Ebola. C'est vraiment des décisions qu'on a prises. On a décidé de mettre tous les moyens parce que dans le budget, on n'a pas, nous, on n'est pas on n'est pas l'Organisation mondiale pour la santé. On n'a pas un programme pour la santé. Mais laisser les gens face à l'Ebola, sans mettre les moyens, surtout logistiques, de la MONUSCO, sans l'appui de UNPOL, sans l'appui des FA, de nos troupes qui doivent assurer la sécurité de ceux qui vont pour soigner, pour aller dans l'épicentre, pour faire ce travail. Donc, on ne pouvait pas se permettre. C'est un luxe qu'on ne pouvait pas se permettre. Et c'est pour ça qu'on a pris cette décision d'être solidaire des populations, d'être solidaire des partenaires humanitaires et ceux qui s'occupent de l'Ebola, mais aussi du gouvernement, parce qu'il faut vraiment, et je saisis cette opportunité pour remercier chaleureusement le ministre de la Santé, les autorités gouvernementale en charge de cette maladie. Ils ont fait un travail remarquable et je tiens à le dire, coopération totale, solidarité, je pars à Beni avec le ministre de la Santé, avec Kim qui est mon adjoint qui s'occupe justement de ce travail et moi-même parce que nous voulons aussi envoyer un signal très fort à tout le monde parce que nous avons des difficultés, les populations parfois ne sont pas préparées à cette maladie, le stress, la panique et donc on a des fois des réactions qui vont à l'encontre de l'intérêt des populations et des malades et des personnes affectées. Je voudrais aussi souligner que malheureusement nous avons aussi un SAF qui a été affecté. Nous nous occupons de lui, il est actuellement en train de se soigner, nous sommes en train de vacciner, il y a eu des questions et je voudrais les précéder sur pourquoi on ne vaccine pas tout le monde. Le vaccin, il est en stade expérimental, c'est le gouvernement, c'est l'Organisation de la Santé qui décide à qui l'administrer. Donc, on cible les personnes qui sont des contacts, les personnes qui risquent d'être affectées. Ce n'est pas quelque chose qu'on achète en pharmacie et on l'administre à toute une population. Ça, il y a 5 étapes pour qu'un vaccin arrive à être vendu dans une pharmacie. Donc, à ce stade, il est encore la propriété de l'Organisation mondiale. Quand je dis la propriété, dans la décision médicale et le ministère de la Santé. Donc c'est pas quelque chose qu'on va, nous, la MONUSCO, administrer, on n'a aucun pouvoir de ce côté-là. Notre rôle, c'est l'appui logistique, c'est la sécurisation, c'est l'accompagnement, mais nous n'avons aucune décision médicale que nous pouvons prendre. Donc voilà, un peu juste pour vous dire quelques mots et puis surtout vous écouter. J'ai parlé de choses peut-être qui peuvent donner l'impression que la situation est, malgré tout ce que nous sommes en train de vivre, moi je reste optimiste et je vous demande de l'être aussi, parce que c'est l'optimisme qui nous permet aussi de vaincre les difficultés et d'avancer. Je me fais critiquer, je l'assume. On dit que je ne fais pas assez, j'accepte, parce que je pense que les populations vivent des difficultés et on a aussi un rôle à jouer. On n'est jamais parfait. Personne ne fait tout ce qu'il doit faire, quel qu'il soit et quelle que soit sa position. Qu'on soit dans le gouvernement, qu'on soit communauté internationale, vous journalistes, la population, l'opposition, nous sommes tous des êtres humains et notre travail est toujours imparfait et on doit toujours l'améliorer. La critique nous permet aussi de nous corriger, donc je vous écoute, n'hésitez pas.
Merci Madame la représentante spéciale pour ce propos liminaire et nous allons maintenant aborder la session des questions et des réponses. On commence sur la droite avec Louise.
J'ai deux petites questions. BBC News. Deux petites questions pour vous. Premièrement, comment expliquez-vous le regain de violence à Beni? Les groupes armés comme les ADF par exemple sont-ils en train de gagner du terrain? La deuxième question, c'est par rapport à la situation à Kamako. Êtes-vous inquiète de la situation à la frontière avec l'Angola, notamment en ce qui concerne potentiellement des réfugiés qui pourraient être parmi ces populations qui sont en train de rentrer? Pourraient-elles être à risque en rentrant au Kasaï notamment?
Et Kamako, hein? Bien. Merci beaucoup pour les deux questions. Je pense que personnellement, si je me rends là-bas, c'est parce que je considère qu'en plus de la problématique de l'Ebola, il y a aussi la problématique sécuritaire. Et effectivement, nous sommes préoccupés parce que ADF prend maintenant une posture assez agressive, s'approche de la ville, cible et les FARDC et nous-mêmes, sans compter bien évidemment toute la souffrance et toutes les violations que subissent les populations. Donc il n'y a aucun doute que c'est une préoccupation. Nous y travaillons, nous travaillons avec les FARDC qui eux aussi ont subi des pertes, comme vous le savez, avec ADF. Il y a d'autres groupes armés aussi qui opèrent dans la zone et qui peuvent aussi utiliser la couverture d'ADF pour d'autres objectifs. Donc pour nous, c'est pour ça l'Ebola pour nous est une difficulté, c'est une contrainte, parce qu'on ne peut pas à la fois, dans une zone affectée par l'Ebola, mener des opérations qui peuvent déstabiliser les populations. Donc nous travaillons pour empêcher, pour protéger la ville de Beni, pour s'assurer que, et vous savez que toutes les attaques, nos forces ont réagi et ils ont empêché les attaques d'avancer. Donc nous avons fait ce que nous avons pu. Nous sommes, comme vous le savez, la FIB, elle est dans un processus de remodellement pour être encore plus efficace, plus opérationnel et avoir les moyens et les capacités. Donc c'est quelque chose sur lequel nous travaillons. Le Force Commander, il passe plus de temps à Beni qu'ailleurs. Et c'est pour ça aussi que je veux discuter avec eux de cette situation. Nous sommes préoccupés, mais nous préparons, nous travaillons avec les FARDC. Et notre priorité aujourd'hui, c'est un, de contenir l'Ebola dans Beni, parce que quand même nous avons aujourd'hui le nombre de personnes affectées a dépassé les 124 ou 126, je crois. On est à 211. On est à 211 dans toute la zone. On a quand même des nouveaux cas tous les jours. Les gens peuvent penser que nouveaux cas, ça veut dire qu'on ne maîtrise pas la situation. En fait, c'est les spécialistes de l'Ebola disent que c'est un bon signe. Ça veut dire que les gens viennent. Ça veut dire que quand il y a une épidémie et que les gens ne viennent pas pour se faire tester, c'est ça qu'il faut s'inquiéter. Quand il commence à venir, quelqu'un m'a dit, un spécialiste de l'Organisation de la Santé m'a dit, vous avez un abcès, il pourrit à l'intérieur et vous ne voyez rien. Et puis quand vous commencez à le soigner, vous commencez à sortir. Le pu, et donc c'est horrible à voir au début, mais c'est bon signe. Les gens viennent, ils se présentent, on les soigne, on vaccine, on identifie les contacts, donc c'est dans l'absolu, c'est pas mauvais, mais c'est une période extrêmement difficile. C'est pour ça qu'on ne veut pas créer une autre crise à l'intérieur, mais on ne permettra pas à ce que la ville sera entre les mains d'un groupe armé, donc on y travaille et on fera ce qu'on peut. En ce qui concerne la situation à Kamako, comme vous le savez, nous ne sommes pas très présents là-bas, mais quand même on a envoyé une équipe droits de l'homme, on a nos militaires qui sont dans la zone, qui se sont déployés. Et il y a une équipe des humanitaires aussi qui est partie là-bas. Ils ont un grand défi, les humanitaires, parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent. La couverture qu'ils ont des besoins, même sans cette situation, elle était déjà de 24%. Donc il y a beaucoup de manque pour eux. Le problème de retour de ces migrants, c'est que c'est des migrants soit en situation irrégulière qui sont renvoyés par un pays sur lequel personnellement je n'ai aucun mandat, mais une fois qu'ils traversent la frontière, ils deviennent des déplacés. Ils sont donc une responsabilité pour nous, dans le cadre de notre mandat, dans le cadre de la situation, le travail des humanitaires. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui s'ajoute à tout ce que nous sommes en train de vivre. C'est d'autant plus préoccupant qu'une fois qu'ils traversent, ils sont déplacés et ils sont parfois dans des zones où vous avez des groupes armés qui opèrent. Et Kamuina Nsapu, Banamura, etc. Et comme vous savez qu'il y a une dimension ethnique entre ces deux groupes, donc aussi les populations qui viennent, ils peuvent être ciblés par l'un ou l'autre. Donc ça nous pose un sérieux problème. Nous essayons de coordonner et avec les autorités, et avec nos moyens sur place pour venir en aide à cette situation qui s'est déclenchée, qui n'était pas prévue. J'espère que j'ai répondu à votre question.
Nous allons prendre une question ici, Neftali.
Merci Madame. Neftali Bouamoutala pour la RTGA. J'ai deux questions. La première, je vais parler du processus électoral. Lors de la présentation de votre rapport sur la RDC devant le Conseil de sécurité, vous avez dit, je cite, « L'application de règles du jeu similaire pour tous est une garantie de crédibilité du processus électoral. » Qu'est-ce que cela veut dire? Et puis la seconde, votre mandat vous donne, vous avez le mandat de bons offices, mais avec l'opposition, ça ne tient pas. L'opposition annonce des manifestations pour contester sur l'utilisation de la machine à voter, notamment les fichiers électoraux. Quel est votre point de vue par rapport à ça? Merci.
Merci beaucoup. D'abord, en ce qui concerne ce que j'ai dit au Conseil, je l'ai dit depuis mon arrivée. Je le répète sans arrêt. La crédibilité du processus, c'est pour les Congolais. Nous sommes des observateurs, on peut être d'accord, ne pas être d'accord. L'essentiel, c'est ce que pensent les Congolais. Si on va vers des élections et on veut que ces élections soient crédibles, il est dans l'intérêt de la majorité et du gouvernement avant l'opposition que ces élections soient perçues comme crédibles et méritent donc l'effort et d'aller et de s'engager et de se présenter. Donc c'est important de donner des gages de crédibilité et d'ouverture pour que chacun se sente intéressé et il dit « ça vaut le coup que j'y aille, je peux gagner, je peux y aller ». Et comment on peut garantir, comment on peut donner cette crédibilité? c'est quand on applique les mêmes règles à la majorité comme à l'opposition. S'il y a des règles, s'il y a quelque chose qui est interdit pour tous, on l'interdit pour tous. S'il y a quelque chose qui est permis, on le permet à tous. L'opposition, la divergence qu'il y a aujourd'hui sur les manifestations publiques, c'est que l'opposition veut s'exprimer, la majorité, le gouvernement dit « la campagne n'a pas encore commencé ». Ce qui est vrai, la campagne n'a pas encore commencé. Mais donner des gages d'ouverture, permettre à l'opposition, si elle est fâchée, si elle veut, dans la mesure où elle s'exprime dans le respect des règles, de l'ordre public, qu'il n'y a pas de violation, qu'il n'y a pas d'abus, ne peut que renforcer le processus. Même si on fait un effort, c'est un effort qui ne peut être que dans l'intérêt de tous. Donc c'est important que les gens... Moi, j'étais ravie, j'ai annoncé ça au Conseil, quand il y a eu la manifestation ici à Kinshasa de la majorité, de l'opposition qui s'est exprimée, et ça s'est bien passé. Il n'y a pas eu d'arrestation, il n'y a pas eu d'abus, il n'y a pas eu... Et c'est quand même un cours de civilité, de démocratie, de respect. Et j'étais en train de préparer le discours quand on m'a annoncé que la même chose va se faire à Lumumbashi. Et j'étais super contente. Je me suis dit, ça va être encore une autre opportunité pour montrer que on évolue positivement et personne n'a plus peur de l'autre. Et puis, en fait, on laisse l'opposition. Ils sont sortis fâchés, ils veulent s'exprimer, on les laisse s'exprimer. Personne ne va mourir parce qu'il y a une manifestation, si elle est bien gérée et si tout le monde respecte les règles du jeu. Malheureusement, cette manifestation n'a pas eu lieu. Je ne peux que le regretter. C'est dommage. J'espère, elle a été reportée, j'espère qu'elle aura lieu. Je sais qu'il y a des discussions entre les représentants de l'opposition et le maire de Lumumbashi. Dans le cadre de mes bons offices, je ferai ce que je peux. Mon équipe sur place était déjà présente pendant toute cette situation. J'étais au téléphone toute la nuit. J'espère que nous aurons cette possibilité pour l'opposition de s'exprimer. C'est dans l'intérêt de tous. C'est une belle image qu'on envoie de la RDC. Et on a besoin d'informations et de nouvelles positives dans un contexte qui est comme ça, très, très tendu. Donc j'espère avoir répondu à votre question. Non, elle m'a posé une autre...
Non, c'était bon.
J'ai répondu à la deuxième
question. Parfait. Okay. On va aller vers Bienvenue, l'agence France Presse.
Bienvenue, Bakoumaïa de l'agence France Presse. Madame, je vais vous lire une citation d'un officier casque bleu. Mm-hmm. À la fin, il faut qu'il y ait un dialogue entre l'armée congolaise et les ADF. Mm-hmm. Est-ce que, sous la table de la MONUSCO, il y a une option de discussion avec les ADF pour mettre un terme au massacre à Beni?
Je n'ai pas vu cette citation. Je voudrais souligner que nous avons une stratégie qu'on a développée pour justement travailler sur la problématique de l'ADF. Personnellement, c'est ma conviction, je ne crois pas qu'un groupe qui est dans ce pays depuis les années 80, comme vous le savez, on peut le vaincre uniquement par les armes. Donc il ne faut jamais exclure toutes les options qui peuvent mettre pression sur un groupe armé pour déposer les armes. Quand je dis mettre pression pour déposer les armes, ce n'est pas légitimer l'action, ce n'est pas dire il faut des négociations politiques avec ADF. Les négociations peuvent se faire dans la mesure où on dit déposer les armes, rendez les enfants. Ça, on peut, c'est d'avoir cette possibilité de demander si la réponse militaire n'est pas suffisante, mais elle peut aussi être un moyen de pression très fort. Donc, je n'exclus aucune possibilité sans parler de... Parce que les ADF, ce n'est pas des Congolais. C'est un groupe armé étranger. Il ne peut pas revendiquer des droits politiques en RDC. Donc, il faut que les choses soient claires, parce que les gens, pendant une négociation, pensent à une négociation qui ramène à des droits politiques et tout ça. Mais on peut dire, vous déposez les armes, vous libérez les enfants, vous, et on met fin à un groupe armé qui... On est en train de faire la même chose avec les FRPI. Donc, si un jour, la pression militaire... Parce qu'à la fin, la pression... Parce que comment vous allez gagner militairement ? En tuant tous les gens qui sont dans la Médina. Il y a plus de femmes et d'enfants que d'hommes en armes. Donc il faut essayer toutes les opportunités, la pression, bien sûr, militaire, mais aussi les amener par la raison, à travers des gens qui peuvent leur parler, à déposer les armes et à arrêter ce qu'ils sont en train de faire. La justice est un moyen de réponse aussi, parce que quand on dit déposer les armes, ça ne veut pas dire qu'on va considérer qu'on ferme les yeux sur les crimes. Je ne prône pas l'impunité, mais tous les moyens doivent être explorés pour mettre fin à la souffrance des populations, à la déstabilisation et à la présence d'un groupe armé qui occupe des zones entières, qui fait beaucoup de mal au FRDC, parce que le nombre de militaires congolais tués est très, très élevé, qui menace notre présence là-bas. On en a, comme vous le savez, nous-mêmes, on a des gens qui ont été tués, on a un militaire qui a été enlevé, on ne sait pas s'il est vivant ou s'il est mort jusqu'à aujourd'hui. On l'a décrété mort parce qu'au bout de 6 mois, il faut donner il faut prendre en charge la famille comme si c'était mort, mais on ne sait pas s'il est mort ou s'il est encore en prison, torturé, on ne sait pas. C'est terrible, c'est douloureux pour son pays, pour son contingent. On a eu des gens, donc la souffrance des populations civiles, le nombre d'enfants tués, enlevés, le nombre de femmes, ce n'est pas quelque chose sur lequel on doit tout essayer pour que ça cesse. Et c'est ça notre stratégie. C'est un, de ne pas, par exemple, laisser l'accès aux villes, d'éliminer les ressources s'il y a des gens qui peuvent les leur apporter. Donc c'est ça, c'est tout un travail. C'est pas seulement aller bombarder ou aller tuer quelques-uns. C'est de vraiment assécher le marécage. Parce qu'un groupe armé, c'est un marécage dans lequel toutes les maladies peuvent grandir. Donc on l'assèche, on utilise tous les moyens pour l'assécher et pour mettre fin à cette violence. J'espère que j'ai répondu à votre question.
Je me tourne sur la deuxième partie de la salle. Oui, madame.
Merci Florence et Sylvie Fortuné Mboula pour Antenne A. Madame Leïla, une grande partie de l'opposition et de la société civile continuent de rejeter la machine à voter. La CENI dit que c'est la machine à voter ou rien. La majorité au pouvoir soutient l'utilisation de cette machine. La semaine dernière, une réunion entre la CENI et le candidat président s'est terminée en quai de poisson sur l'utilisation de la machine à voter. Le dimanche 8 octobre, le membre du Conseil de sécurité en parlait d'un large consensus, car c'est une question de souveraineté. Tout à l'heure, vous parlez d'un rapprochement. Ma question est celle de savoir... Soutenez-vous l'idée d'un dialogue? Qu'est-ce que vous entendez par large consensus et rapprochement? Ou bien vous soutenez l'idée d'un dialogue qui pourrait aboutir à une nouvelle transition qui aura pour conséquence le report des élections? Merci.
Premièrement, je pense que je n'ai ni un mandat, ni même l'intention moi-même de me mêler d'une décision qui ne peut appartenir qu'aux partenaires, qu'aux parties prenantes, en ce qui concerne le processus électoral et s'ils veulent avoir une transition, tout ça, ce n'est pas moi qui vais aller leur suggérer ça et ce n'est pas dans mes intentions. Moi, je travaille sur un agenda très clair, j'ai un calendrier et le président de la République a été très clair avec le Conseil de sécurité. Les élections auront lieu et auront lieu bel et bien le 23 décembre. Donc c'est dans ce contexte que je m'inscris et j'essaye de ramener les partis à lever les divergences qui existent et qui font, parce que ce n'est pas seulement d'aller aux élections, c'est d'aller à des élections apaisées, des élections où chacun se reconnaît, pour que le lendemain, on ne va pas commencer à contester les résultats et à se bagarrer et à se retrouver dans une crise politique. Ce que nous voulons, c'est de permettre à la RDC d'avancer dans ce processus, d'aller vers plus de stabilité, de se concentrer sur son développement. Donc ce n'est pas une solution de nous retrouver dans une situation de conflit. Ce que j'ai dit, parce que je rencontre les parties prenantes. Hier, j'étais avec candidat président. La veille, j'ai rencontré un autre. Je fais ça et opposition, majorité, pour essayer de les ramener à s'entendre, parce que c'est à eux de se mettre ensemble et de prendre les décisions. C'est eux qui vont devant le peuple congolais pour dire « Nous voulons vous représenter pour les prochaines 5 années ». Il y a cette divergence sur la machine à voter, sur le fichier électoral. J'ai dit à tout le monde, les Britanniques, ils ont fait une étude et ils disent que si on met en œuvre les 15 recommandations, la machine, on ne peut pas utiliser la machine pour les risques qui sont mentionnés, c'est-à-dire tricher avec la machine. Parce que c'est ça au cœur de toute la problématique, c'est ça. C'est qu'on va utiliser la machine pour tricher. Au cœur de la problématique, c'est que cette machine n'est pas venue de façon consensuelle entre les parties où tout le monde s'est mis d'accord. Je ne veux pas donner de point de vue sur la machine parce qu'après on va m'accuser de me positionner dans un camp ou dans l'autre. Et je refuse. Mon point de vue personnel, je préfère me le garder pour moi et je ne dirai jamais elle est bien ou elle n'est pas bien. Parce que c'est la décision des Congolais. Si les Congolais considèrent qu'elle n'est pas bien, ce n'est pas moi qui vais leur dire faites-le. Je peux parler en aparté, je peux dire aux gens voilà, vous avez cette proposition qui vient de la Fondation britannique. Explorez-la, discutez entre vous, entendez-vous sur qu'est-ce que vous voulez faire et arrivez à un rapprochement. Ils ne seront jamais d'accord à 100%. C'est des positions aussi politiques. Les gens se préparent aux élections. Donc, ils ne vont pas dire on est d'accord, surtout on est des amis. Ils sont des adversaires politiques. Chacun veut convaincre l'électorat que lui, c'est mieux que l'autre. Donc, c'est légitime. C'est une posture légitime. L'essentiel, c'est qu'à la fin, il y a une différence entre la posture et la stratégie réelle d'avancer. S'ils arrivent à se mettre d'accord, nous serons là pour les aider, pour les appuyer, pour apporter tout ce qui est nécessaire. Nous sommes impliqués dans tout ce qui est appui technique. Si on nous demande de faire quelque chose pour justement rassurer en ce qui concerne cette question, nous le ferons. Nous sommes là pour ça.
Il y avait la dernière partie de la question concernait le dialogue. Est-ce qu'on est prêt à soutenir un nouveau dialogue?
Ce n'est pas à nous de décider. J'ai déjà répondu à la question. Ce n'est pas à nous de décider. C'est les partis, c'est leur rôle, ce n'est pas nous. Et nous, de toutes les façons, c'est le Conseil de sécurité qui nous dicte notre mandat. Pour le moment, le Conseil dit vous appuyez les élections du 23 décembre.
On va prendre une question sur la droite avec Monsieur Blaise.
Merci. Blaise Wassomboli pour TV5 Monde. Madame Leila, vous disiez tout à l'heure que le président Kabila a dit à l'ONU que les élections auront lieu le 23 et vous travaillez à ça. Mais on sait que vous avez proposé la logistique. Les autorités congolaises n'en veulent pas. Aussi le financement extérieur, ils n'en veulent pas. Nous sommes à moins de 3 mois de ces élections. Est-ce que vous croyez qu'avec tout ça, on pourra avoir ces élections le 23 décembre? Merci.
Vous savez, moi, j'ai pris la décision de me préparer au cas où on a besoin de l'appui logistique. Donc, nous avons pris ce risque financier. Si jamais il y a à temps, si on vient à temps, nous demander de nous préparer pour apporter un appui, notamment dans le déploiement du matériel une fois une fois qu'il arrive, nous sommes prêts à le faire. Le gouvernement dit qu'il a un plan, il ne l'a pas partagé avec nous, donc je ne peux pas le juger et vous dire il est valable ou pas. S'il y a volonté politique, s'il y a moyen, et si le gouvernement a un plan bien établi avec un appui logistique où on va transporter tout le matériel par voie aérienne et tout ça, c'est encore possible. C'est encore possible. Maintenant, je ne sais pas, je n'ai pas cette information, je n'ai pas accès au plan des autorités, je ne sais pas quels sont les moyens qui vont être mis en œuvre pour que, avant le début de la campagne, tout le matériel est déployé. Nous serons un peu plus fixés dans les peut-être la fin de ce mois, si vraiment on a d'autres machines qui arrivent, si on a du matériel qui arrive, si on commence à voir le déploiement, je pourrais me prononcer dans une prochaine discussion. À ce stade, je reste quand même assez réservée parce que je n'ai pas toute l'information.
Oui, Christiane.
Merci, c'est Christiane Nekambo, l'éditrice du journal Les Nations.net. Madame la représentante spéciale, vous avez dit ici, et ce qui est vrai, le mandat de bons offices a entre autres comme objectif de ramener les parties prenantes à un minimum de consensus. Mmh. Et quand vous dites minimum de consensus, est-ce qu'on peut lire dans ce mot que vous savez que vous n'arriverez pas à satisfaire tout le monde, ou bien que l'opposition ne pourra pas avoir les réponses aux questions qu'elle se pose?
Quand je dis minimum de consensus, c'est un minimum qui permet d'avancer. Bien sûr, si c'est un minimum qui ne permet... Parce qu'une fois qu'on commence un processus, on peut avancer. Une fois qu'on a... adhérer, moi, pourquoi j'étais contente quand la CENI a reçu les candidats présidentiels, quand ils se sont mis d'accord pour avoir un comité technique? C'est comme ça qu'on avance. Vous savez, la politique, c'est l'art du possible. Donc, on discute, on avance, on fait un pas en arrière, deux pas en avant, et puis on avance. C'est ça, la politique. La guerre, on va, on tue l'autre, on prend sa place. C'est la guerre. La politique, c'est des négociations, c'est des processus, j'avance, je recule, jusqu'au jour où on se met d'accord, on est ok, on peut y aller. C'est pour ça que je considère le minimum de consensus, on ne va jamais être à 100% d'accord. C'est impossible, on est des adversaires politiques. On ne peut pas être d'accord. Je dis adversaires politiques parce que parfois les gens, ils ont une logique, c'est l'ennemi, l'autre là-bas en face. C'est pas, je dis, vous êtes tous des Congolais et vous aimez votre pays. Et chacun pense que lui va le servir mieux que l'autre. C'est comme ça qu'on parle de partis politiques, de candidats pour prendre le pouvoir dans un pays. C'est qu'on est tous pour le même objectif, construire un État, le stabiliser, le développer, mais on n'est pas d'accord sur les programmes. Chacun pense que sa démarche est meilleure et plus fructueuse. Donc c'est des adversaires politiques qui ne seront jamais d'accord à 100%. Mais ce que nous voulons, c'est pas qu'ils deviennent la même chose, c'est qu'ils s'entendent sur un minimum qui permet à ce que ces élections soient crédibles et se déroulent sans contestation majeure qui fait que les Congolais ne savent pas où ils vont et qu'est-ce qu'ils veulent choisir et avec qui ils vont se positionner. C'est ça que je veux dire.
Nous allons sur la droite. Oui, Benoît.
Merci. Je me nomme Benoît Kambere Lusumba. Je suis du magazine Les Échos de la région des Grands Lacs et du journal L'Émergence. Madame, je suis très sensible à ce que vous avez dit sur Béni. Je suis originaire de Béni. Nous avons commémoré, madame, 4 ans de massacre à l'arme blanche hier et dimanche, la communauté Nandé de Kinshasa. On a parlé de cette nébuleuse ADF, madame. Vraiment une nébuleuse. Le FIB est là depuis plusieurs années. On a même massacré. Parmi les massacrés, il y a des casques bleus tanzaniens. On a dit qu'il y a eu des cadavres. On n'a jamais arrêté un seul ADF. On n'a jamais
On les voit en uniforme de FRDC. Apparemment, vous ne les voyez pas. C'est quoi les ADF? C'est qui les ADF? Il faudrait combien de temps pour que la population, la pauvre population de Béni, cesse de souffrir et qu'on massacre depuis 4 ans à l'arme blanche? ADF, ça existe depuis plus de 20 ans, madame. Il faut que ça s'arrête. Je m'adresse à la MONUSCO, pas au gouvernement congolais, parce qu'on a déjà dit ça au gouvernement congolais, on a eu la réponse qu'on a eue. Deuxième élément, madame, l'accord de la Saint-Sylvestre date d'il y a maintenant 2 ans. Elle est violée, madame, à longueur des journées, par le camp que vous connaissez, madame. Vous ne le dites pas. Vous pensez qu'à 2 mois des élections, on va y arriver, madame, alors qu'il y a manifestement la mauvaise foi d'un camp. Et c'est connu, madame. On ne peut pas aboutir. C'est à moins de 2 mois qu'on devrait aller aux élections. Je n'y crois pas. J'ai dit, madame.
Sur la deuxième question, je ne vous réponds pas, c'est votre position, vous avez le droit. J'ai exprimé la mienne, j'ai expliqué que ce n'est pas moi qui décide et ce n'est pas moi qui peux imposer et dire vous devez faire 1, 2, 3. Ce n'est pas mon rôle. J'ai un mandat de bons offices sur les élections. J'ai un mandat d'appui logistique et technique. Je n'ai pas un mandat, je ne suis pas une force d'occupation en RDC. Et je crois que les gens doivent comprendre. Nous sommes ici en appui pour aider la RDC qui a vécu une situation de conflit à sortir de cette crise. Nous travaillons pour convaincre les Congolais, les autorités, l'opposition à aller vers des élections crédibles qui leur permettent de construire la paix et de tourner la page. C'est pas moi, je vais aller, je vais dire, hey, vous, monsieur, vous faites ça, ce n'est pas mon rôle. Je ne suis pas là pour ça. Et je refuserais de le faire si on m'avait demandé ça. Je ne serais pas ici. Je suis ici pour essayer d'aider un pays. J'y crois personnellement que ce pays, il traverse une crise difficile, mais c'est un pays qui est beaucoup en avance qu'on ne le croit. Parce que si on est en train de discuter de tout ça, c'est parce qu'il y a eu une évolution. Donc, il ne faut pas casser, il ne faut pas jeter l'eau et le bébé. On a des problèmes, et c'est des problèmes qui ne sont pas simples, et je pense qu'il faut travailler pour justement éviter des déraillements. Et c'est notre rôle et notre mission, et on le fera lorsque les Congolais y croient eux-mêmes. En ce qui concerne Béni, d'abord, vous dites qu'on n'a jamais arrêté quelqu'un. C'est pas vrai. On a arrêté des gens. C'est pas nous qui arrêtons parce qu'on n'a pas de mandat d'exécutif, mais le gouvernement arrête. Nous travaillons avec les FRDC. Ils ont eu plus de 1000 personnes tuées. Donc, je pense qu'il y a un minimum de respect pour ces morts. Ils sont morts pour la RDC. Ils sont enterrés loin de là où ils sont. C'est dur, ça. C'est dur, parce que c'est des gens qui se battent pour vous, pour votre sérénité, et qui perdent la vie. Et parfois, leur corps ne revient même pas là où leur famille existe. Donc, je pense qu'il y a des engagements qui ont été pris, qui sont pas... C'est pas évident. Vous savez, faire la guerre à un groupe qui est dans la brousse... Et qui sort au moment où vous vous attendez le moins, c'est pas facile. Et vous savez, vous avez les exemples des grandes armées du monde qui n'ont pas venu à bout. Et c'est pour ça qu'on a dit qu'il faut trouver aussi d'autres options. Vous savez, l'Afghanistan, vous connaissez ce qui se passe en Irak, vous savez ce qui se passe en Syrie, vous savez ce qui se passe dans beaucoup de pays où vous avez ce qui s'est passé avec Boko Haram et tout ça. Donc, il y a une difficulté réelle. ADF, ils ont aussi une technique de venir avec des femmes et des enfants, d'opérer avec des femmes et des enfants. C'est très difficile. de faire face à ce genre de démarche, de méthodologie. Si vous pensez qu'on n'y travaille pas, nous travaillons. Mais vous savez, c'est pas facile. On peut pas demander à des gens de régler un problème qui est là, qui est complexe, où il y a des implications, où vous avez des populations qui ont marié leurs enfants avec ces gens. Donc il faut vraiment avoir l'information qui vous permet d'être opérationnel et efficace. Nous travaillons avec les FRDC, nous travaillons nous-mêmes, et je pense que nous allons faire de notre mieux pour réduire cette menace. J'espère, vous avez dit qu'ils portent les uniformes des FRDC. C'est un grand défi pour nos militaires, par exemple. C'est un grand défi. Parce que nous, on n'a pas le droit de tirer sur les FRDC. C'est nos partenaires. On travaille avec eux. Donc, il y a beaucoup de difficultés. Nous y travaillons. Mais je ne voudrais pas qu'on jette le bébé... l'eau avec le bébé. Je pense que les gens qui sont là-bas, que ce soit les policiers, les militaires ou les nôtres, ils sont dans une situation intenable. Pensez-y, ils ont l'Ebola qui peut les ramasser, ils ont les groupes armés qui les attaquent, ils ont l'ADF, ils ont d'autres groupes armés qui aussi sont intéressés pour d'autres causes. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans cette zone, il y a aussi des intérêts économiques qui échappent au contrôle de l'État. Et c'est ça la réalité aussi. Donc il y a beaucoup de choses, mais s'il vous plaît, je comprends votre frustration. Moi aussi, je suis frustrée. Mais je ne renonce pas, je continuerai à faire ce que je peux.
Alors, on s'oriente tout doucement vers la fin de cette conférence de presse, mais on va quand même encore prendre une ou deux questions avec Madame tout au fond.
Jaël du magazine Actu 30. Madame Leïla, la campagne électorale débutera déjà le mois prochain selon le calendrier de la CENI. Est-ce que le territoire des Bénins, comment est-ce que vous envisagez protéger les candidats qui vont battre campagne dans le territoire de Bénin? Comment est-ce que la MONUSCO va procéder, soit parce que nous savons qu'il y a la présence des ADF et l'épidémie d'Ebola?
C'est une question que nous discuterons avec les autorités en temps opportun. C'est pas la MONUSCO qui va décider de protéger les gens. Comme je l'ai déjà dit, je n'ai pas de mandat de protection des candidats quand ils battent campagne. Nous avons une neutralité et nous n'avons pas le droit de nous impliquer dans la campagne électorale. Nous ne sommes pas mandatés pour le faire. Mais nous travaillerons si les autorités, si dans le cadre de la situation qui est sensible à Béni, on nous demande d'apporter un appui à la police ou au FRDC, on le fera bien évidemment.
On reste du même côté avec Polly.
Polly Mouzalia pour la BBC. Ma question est toute simple, madame. Est-ce que la MONUSCO considère la menace des ADF comme étant de nature terroriste? Merci.
Qu'est-ce que c'est de nature terroriste? Vous savez que le monde ne s'est pas mis d'accord sur la définition du terrorisme dans le monde. Chaque gouvernement, il a une définition de ce que c'est le terrorisme chez lui dans sa loi nationale. Mais nous considérons que les tactiques terroristes sont utilisées par ADF. C'est clair que quand vous venez, que vous attaquez à des civils, que vous tuez des civils, qui des enfants, que vous prenez des bébés parfois, bien sûr que c'est des tactiques et des activités des terroristes. Maintenant, l'ADF, c'est un mouvement terroriste? Je pense qu'il y a beaucoup de pays qui le considèrent comme tel, y compris la RDC. Et nous travaillons dans ce cadre-là. C'est un groupe qui attaque des civils, qui a tué des civils, qui use de tactiques et de pratiques terroristes. Oui, ça c'est clair. Vous savez, j'ai passé 5 ans dans mon autre mandat, quand j'étais représentante spéciale du secrétaire général chargée des enfants et les conflits armés. Vous pouvez lire tous les rapports pendant 5 ans. Je n'ai jamais dit groupe terroriste, je dis groupe utilisant des activités et des techniques terroristes. Pourquoi ? Parce que vous avez dans le monde des définitions qui ne sont pas toujours en accord. Votre groupe terroriste, pour moi, c'est un freedom fighter, c'est un défenseur des droits de l'homme. Donc il y a dans certains pays, je ne parle pas de la RDC, il y a dans certains pays des divergences sur qui est terroriste, qui n'est pas. La Syrie va vous dire l'armée libre de Syrie, c'est un groupe terroriste. Eux, ils se définissent, et ceux qui les soutiennent, les définissent comme des défenseurs du peuple syrien. Donc c'est pour ça qu'on évite. Ce n'est pas parce que j'ai vu que parfois on nous accuse de ne pas être très clair en disant qu'ADF c'est un groupe terroriste. Non, c'est parce qu'on veut être prudent. D'une façon générale, les Nations Unies, on n'a pas une définition acceptée par tous les États du monde sur qu'est-ce que c'est la définition d'un groupe terroriste. Mais on a les activités, et les activités de ADF, oui, sont des activités qui s'apparentent à ce que commettent des groupes terroristes.
Et on va prendre une dernière question avec monsieur.
Est-ce que c'est juste que d'autres ont levé? Je les ai vus lever depuis tout à l'heure. Allez-y.
Merci. Madame, c'est Amen Dimouani pour Numérica Télévision. Je serai très court. Madame, je m'en tiens à votre optimisme encore. Je vous pose cette question. Qu'arrive-t-il si le 23 décembre, il n'y a pas élection?
Si le 23 décembre, il n'y en a pas d'élection, j'espère que les parties prenantes se seraient déjà entendues sur le pourquoi et qu'est-ce qu'il faut faire à la place. C'est ça le plus important. C'est pour ça que je dis qu'il faut que ces gens se parlent. Il faut qu'ils se mettent d'accord, qu'ils se disent un minimum de vérité et qu'ils avancent. On ne va pas se réveiller le 23 décembre. J'espère qu'avant d'arriver au 23 décembre, les parties prenantes s'entendent sur qu'est-ce qu'il faut faire. Si on n'y arrive pas le 23 décembre, ce sera quand, comment, le pourquoi et un minimum de consensus.
Bon.
Ça fait rien.
Encore une. Non, parce que ça va être retransmis après sur Okapi, donc on a quand même une petite contrainte de temps.
C'est pas grave. Si Radio Okapi ne transmet pas,
vous le dites.
Les gens, ils ont le droit de parler.
On y va.
Bien, merci Madame Leïla. C'est Nikez Mouzani d'Afriqueco.ch. Ah. Madame, quand vous observez bien le processus ici en DRC, en RDC, l'un des camps fait plus usage des armes létales au lieu de privilégier le respect des textes et les dialogues. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé l'idée dans votre tête de proposer une résolution contraignante au Conseil de sécurité? Parce que toutes les résolutions que vous prenez, Kinshasa vous répond, ce sont des conseils à prendre ou à laisser.
Je voudrais vous dire que le mandat, il a été voté sur le chapitre 7. Donc les résolutions du Conseil de sécurité sont contraignantes. Mais c'est le Conseil de sécurité qui décide qu'est-ce qu'il met dans une résolution. Donc ce n'est pas moi qui... Qu'est-ce que vous pensez que je suggère au Conseil? On va faire la guerre en RDC? Vous voulez une mission de maintien de la paix qui vient faire la guerre en RDC? C'est pas sérieux, quoi. Nous travaillons pour mettre fin à la guerre. Nous voulons que les Congolais prennent en charge leurs problèmes, qu'ils assument leurs responsabilités, qu'ils deviennent, qu'ils s'entendent entre eux. Dans un pays, on doit vivre ensemble. On peut être divergent, pas d'accord, mais vivre ensemble. Mais qui veut la guerre? Il faut tourner cette page, quoi, de votre pays. Ça suffit. Vous avez suffisamment souffert. Vous voulez aller aux élections avec la guerre? Avec les armes, on va aux élections. Autant ne pas faire d'élections dans ces conditions.
Les textes ne sont pas respectés par les
textes. Il faut faire en sorte qu'elles soient respectées. Il faut parler, il faut répéter. Il faut dire aux gens, ce n'est pas dans votre intérêt. Il faut avancer, il faut construire le consensus. Faire en sorte que les Congolais, d'abord, se mettent dans leur tête qu'ils ne sont pas des ennemis. Qu'ils appartiennent à ce pays, que ce pays leur appartient. Et que tous... Ils veulent sa prospérité. Regardez votre hymne national, il est magnifique, votre hymne national. C'est extraordinaire, il faut juste s'imprégner de cet hymne. Et je ne plaisante pas, je le pense sincèrement. Je suis vraiment sincère. Je le dis avec beaucoup de conviction. Et je suis pas, c'est pas au nom des Nations Unies. Je le pense à titre personnel. Vous avez tout pour avancer. Un minimum d'entente entre vous. De vous mettre d'accord sur le minimum pour l'intérêt des populations futures.
Alors, nous allons à Saint-Forien.
Merci pour la parole, Saint-Forien Katumba, pour les comptes de l'explorateur. Madame, je quitte un peu de la politique, je vais un peu parler de Dr. Mukwege, fils du pays, Mukwege.
Mukwege.
Il a eu le prix Nobel de la paix, suite à ce loyaux de service qu'il rend à la nation. Mais l'insécurité règne à l'Est. Vous, en tant que maman, en tant que dame, est-ce qu'il y a la MONUSCO à disposer, une équipe pour la protection de son entourage, y compris la personne qui rend ses services, en travaillant en symbiose avec nos forces armées pour la sécurité du docteur Mukwege? J'ai dit, je vous remercie.
Je l'ai déjà dit, et je le répète, nous n'avons pas de mandat pour protéger les individus. Ce n'est pas notre mandat. Protéger les individus contre qui? Contre l'armée? Contre la police? Ce n'est pas notre mandat. Nous avons mis à la disposition de l'hôpital Panzi une équipe pour assurer la protection de l'hôpital quand il était menacé par des intrusions de groupes armés. Parce que l'hôpital se trouve dans une zone où il y a des groupes armés qui opèrent, et nous avons apporté cet appui à la demande du docteur McWiggy, bien avant qu'il ne soit consacré comme prix Nobel de la paix, parce que les personnes qui sont dans l'hôpital, c'était des personnes qui ont déjà subi des violences, c'est les femmes violées, c'est les enfants, c'est les petites jeunes filles, donc on a fait ça, on travaille pour que cette protection soit pérennisée à travers la police nationale. Nous y travaillons. Je tiens à saisir cette opportunité, puisque je parle publiquement, à féliciter le docteur Mukwege. Je pense que je l'ai dit, je lui ai envoyé une lettre personnelle. Je l'ai mentionné dans mon discours dans le Conseil de sécurité. Je lui ai envoyé, j'ai fait un message le jour même où l'annonce a été faite. Pourquoi? Parce que d'abord, j'ai travaillé avec le docteur Mukwege parce que j'étais là avant et je travaillais sur les violences sexuelles. Vous savez que j'étais très impliquée quand j'étais numéro 2 dans cette mission sur toutes les violations qui affectent les femmes et les enfants, puisque j'avais en charge cette thématique. Je considère que l'affectation du prix Nobel de la paix au docteur Mukwege et à Nadia Mourad, c'est une consécration pour les femmes victimes. C'est une consécration pour celles qui souffrent des violences sexuelles. C'est aussi une belle image pour la RDC, pour votre pays. C'est qu'il y a des gens qui se battent contre la souffrance, contre la douleur, qui protègent les victimes, qui y travaillent. C'est une bonne chose, c'est positif. Donc pour nous, c'est un signal fort de la communauté internationale pour la RDC et pour les femmes de la RDC.
Allez, Alain, et cette fois-ci, c'est la dernière.
Merci, c'est M. Alain pour l'agence de presse Chez Nouvelles et la télévision Al Jazeera. Madame Leila, vous étiez à Ndjougou à plusieurs reprises et vous savez que Ndjougou est vidé de ses populations à quelques mois des élections. Il y en a des milliers qui traînent encore en Ouganda et Ebola qui vient de s'ajouter à la frontière aussi. Il y a une mission parlementaire qui confirme la naissance d'une nouvelle rébellion à Ndjougou. C'est après avoir mené des enquêtes, parlé avec la société civile et tout le monde. Est-ce que la MONUSCO est au courant, parce que vous avez une équipe à Ndjougou? Vous étiez là personnellement. Est-ce que vous êtes au courant de cette nouvelle rébellion et quels sont les dispositifs que vous avez pris en Ituri, connaissant la situation en Ituri depuis longtemps? Merci.
L'Ituri, je pense personnellement qu'on a mis beaucoup de moyens pour justement réconcilier et s'assurer que, quelles que soient les causes de la violence, les deux communautés qui avaient un passé de conflit, c'est-à-dire les Hema et les Lindou, ne soient pas entraînées dans quoi que ce soit. Et je pense que ça a un travail qui a été fait. Je suis ravie qu'aujourd'hui tout le monde dit nous n'avons pas de conflit ethnique en Ituri. Et vous savez que c'est quand même une province qui a subi cette situation par le passé. Donc c'est positif. Dans cette situation, nous sommes aussi, comme vous le savez, nous travaillons avec le gouvernement pour que les FRPI déposent les armes. Et ça, on est aussi assez bien avancé. Nous avons facilité plusieurs rencontres avec les autorités locales et avec le ministre de la décentralisation, c'est ça, qui est parti rencontrer les autorités, les parties prenantes pour discuter. On avait même sécurisé les gens pour que, y compris les représentants de FRPI, descendent et parlent avec les autorités pour s'assurer que ce dialogue se fasse et qu'ils déposent les armes. Nous insistons pour ça. Maintenant, j'ai lu comme vous qu'on parle d'une rébellion. J'attends que ils ont dit qu'ils parleront à qui de droit, donc j'attends qu'ils fassent leur déclaration. Je ne sais pas si on parle des groupes qui opèrent aujourd'hui ou de quelque chose d'autre que je ne connais pas, donc je ne peux pas me prononcer à leur place tant que eux ne se sont pas prononcés. Ce que moi je peux dire, c'est que le groupe actuellement actif en Ituri, c'est particulièrement le FRPI. Alors, et le FRPI, effectivement, des exactions commises contre les populations de façon constante. Il y a aussi parfois des violences qui sont attribuées soit à des Lindou contre des Hema, soit à des Hema contre des Lindou, mais les leaders des deux communautés rejettent toute implication directe ou de conflit ethnique. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui manipulent ou quelque chose comme ça? Je le saurai quand d'abord j'entends ce que disent ces parlementaires. Et après, je me prononcerai sur qu'est-ce que nous, aux Nations Unies, on peut faire.
Madame la représentante spéciale du secrétaire général, chef de la MONUSCO, je vous remercie pour votre participation à cette conférence de presse spéciale aujourd'hui. Merci aussi à vous tous, journalistes, de vous être déplacés à cette occasion. Et nous vous souhaitons une très belle journée.